Donc aujourd'hui, on aborde Machiavel et le prince de Machiavel. Et on va commencer par quelques éléments de biographie, hein, évidemment à resituer dans tout ce qu'on a déjà dit sur l'histoire de Florence au moment des guerres d'Italie. Mais là, spécifiquement sur le parcours machiavélien, hein. En tout cas, les éléments qu'il faut absolument connaître, on ne rentrera pas dans le détail des expériences de Machiavel, mais il faut quand même avoir en tête qu'une partie de ce qu'il y a dans le prince, comme d'ailleurs c'est indiqué très, très précisément dans la lettre de dédicace du texte, vient de la lunga esperienza delle cose moderne, hein, et donc de ces années au service de la République florentine. Alors, donc, Machiavel naît à Florence le 3 mai 1469. Il est d'une famille, évidemment, de citoyens florentins, mais pas de patriciens florentins, hein, à la différence de Guicciardini, qui est lui une famille de patriciens qui joue un rôle depuis plusieurs siècles à la tête de la République, hein. Son père est Bernardo, hein, donc c'est Niccolò di Bernardo Machiavelli, est docteur en droit. Il sait le latin très bien, contrairement à ce qu'on a dit parfois, il sait le latin, il sait écrire en latin. Hein. Il ne sait pas le grec, en revanche. Et ce qu'on sait sa vie, pratiquement les 30 premières années de sa vie, est assez limité. Hein. Je vous renvoie à une biographie qui reste la biographie de référence pour Machiavel. Peut-être utile qu'un d'entre vous la lise pour éventuellement faire une fiche pour ses camarades. C'est donc la Vita di Niccolò Machiavelli, écrite par Roberto Ridolfi, hein, descendant de la grande famille de Ridolfi qu'on a déjà vu, hein, Giovanni Battista Ridolfi, qui sortait avec sa hallebarde pour défendre Savonarole le jour de l'ascension de 1497. Donc Roberto Ridolfi, Vita di Niccolò Machiavelli, écrite en 1954 et qu'on trouve encore aisément. Et en fait, notre connaissance de la vie de Machiavel naît avec sa nomination comme secrétaire de la seconde chancellerie florentine. Et il est nommé le 15 juin 1498, donc vous voyez, extrêmement peu de temps après la mort de Savonarole, ce qui laisse évidemment penser qu'il n'était pas dans les Savonaroliens, hein, qu'il était parmi les gens qui se méfiaient de Savonarole, hein, qui n'avaient pas confiance dans la parole du prophète, hein, enfin voilà. Ça correspond d'ailleurs, cette date là de 1498, elle correspond pratiquement à une des toutes premières lettres qu'on connaît de Machiavel, qui est une lettre du 9 mars 1498, hein. Lettre qu'il envoie à l'ambassadeur florentin à Rome à ce moment-là, donc en mars 1498, au terme du processus savonarolien. Cet ambassadeur florentin s'appelait Ricciardo Becchi et une assez longue lettre de Machiavel, en gros sa première grande lettre politique, hein, qui raconte les sermons auxquels il a assisté, les sermons de Savonarole auxquels il a assisté au début mars début mars 1498, les sermons sur l'Exode. Hein. Et c'est dans cette lettre qu'il y a ce jugement hein, sur Savonarole, qui s'énonce de la façon suivante. Donc, il explique ce que Savonarole dit au cours de ses divers sermons. Il explique comment il change de point de vue, enfin plutôt pas qu'il change de point de vue, mais qu'il change d'orientation dans ses sermons. Et il commande de la façon suivante. Et così, secondo il mio giudicio, viene secondando i tempi e le sue bugie colorendo. Hein, regarde, un jugement, premier jugement sur Savonarole, ça ne sera pas le seul. Vous savez qu'on on a déjà vu un certain nombre de choses, en particulier sur le prophète des armées, enfin, hein, qui sont des jugements importants sur comment Savonarole pouvait être perçu par des gens qui ne l'aimaient pas à Florence. Alors, là, pendant cette période qui va donc aller de 1498 à novembre 1512, on peut dire que Machiavel fait là son apprentissage dans le métier de l'État. Hein, et vous savez que quand j'emploie cette expression en français, apprentissage dans le métier de l'État, je traduis précisément un petit passage de la lettre de décembre 1513 envoyée à Francesco Rettori, la fameuse lettre du 10 décembre 1513 dans laquelle Machiavel annonce qu'il vient d'écrire un opuscolo, qui vient de, hein, il dit, au fait, ho composto uno opuscolo de principatibus, dove io mi profondo quanto io posso nelle cogitazioni di questo soggetto, disputando che cos'è principato, di quale spezie sono, come essi si acquistano e si mantengono, perché essi si perdono. Quelques lignes plus loin, enfin, hein, il explique que si on lisait ce texte, puisqu'il hésite à donner ce texte aux Médicis, etc., il se demande s'il va le donner, etc. Et il commande de la façon suivante. Quando la fusse letta, si vedrebbe che 15 anni che io sono stato a studio all'arte dello Stato, non li ho né dormiti né giocati. E dovrebbe ciascheduno aver caro servirsi d'uno che alle spese d'altri fussi pieno di esperienza. E della fede mia non si dovrebbe dubitare, perché avendo sempre osservato la fede, io non debbo imparare ora a romperla. E chi è stato fedele e buono 43 anni che io ho, non debbe poter mutare natura. E della fede e della bontà mia ne è testimonio la povertà mia. Ce passage là, évidemment important sur cette idée que tout ce qu'il a appris, hein, ce qu'il a appris, ça a été appris dans ce travail, hein, dans le métier, l'arte dello Stato. Hein, ces 15 années passées au cours de cette période où Florence était bouleversée hein, par les guerres d'Italie, où l'Italie elle-même en proie à des guerres incessantes était parcouru par Charles, pillé par Louis, forcé par Ferdinand et outragé par les Suisses, hein, comme le dit passage du Prince, chapitre 12. Hein. Et c'est dans ce moment-là que il fait son apprentissage et que il joue le rôle, en gros, de assez rapidement d'un des conseillers principaux du gonfalonier à vie, Piero Soderini. Hein, cela donc pendant cette période qui va jusqu'en novembre 1512. Ouais. Donc là, on a, pendant toute cette période-là, hein, on a une masse de documentation qui n'est même pas toute publiée, et qui est donc constitué par les lettres privées, les lettres publiques et les scritti di governo et les lettres qu'il écrit à Florence pendant qu'il est envoyé lui-même en ambassade. Donc là, pendant toute cette période, il a parcouru l'Italie, la France, la Suisse, il va jusqu'à Trento, il a rencontré les principaux condottiers et princes italiens, il a rencontré en particulier Cesare Borgia, hein, personnage qui va jouer un rôle important dans l'écriture, hein, comme personnage littéraire et politique dans le texte De Principatibus. Il Principe, il a rencontré à plusieurs reprises, il est allé en France à plusieurs reprises, a rencontré le roi de France Louis XII et ses conseillers, il a rencontré l'empereur Maximilien, etc. Donc ça, c'est, tout ça, c'est un des piliers, hein, des piliers de sa réflexion, dont il rappelle dans la lettre de dédicace du texte, qu'il l'a acquise, hein, con tanti mia disagi e pericoli. Vous vous rappelez donc de ce passage qui est important, hein, dont il explique qu'il voulait offrir donc au jeune Laurent de Médicis, hein, un cadeau qui soit une espèce de témoignage de sa volonté de le servir, hein, et dit-il, non ho trovato intra la mia suppellettile cosa quale io abbia più caro o tanto existimi quanto la cognizione delle azioni degli uomini grandi imparata da me con una lunga esperienza delle cose moderne e una continua lezione delle antiche, le quali avendo io con gran diligenza lungamente escogitate, esaminate e ora in uno piccolo volume ridotte mando alla magnificenza vostra. E benché io giudichi questa opera indegna della presenza di quella, tamen confido assai che per sua umanità gli debba essere accetta, considerato come da me non gli possa essere fatto maggiore dono che darle facoltà a potere in brevissimo tempo intendere tutto quello che io in tanti anni e con tanti mia disagi e pericoli ho conosciuto e inteso. Donc, le pilier numéro un de la réflexion, c'est donc, hein, cette expérience, hein, expérience, qui est dans le texte là, de la lettre de dédicace, la longue expérience de la cause moderne, qui était dans la lettre que je vous ai lue tout à l'heure, hein, l'experiencia. Voilà. Et essere a studio all'arte dello Stato, c'est donc avoir acquis cette référence, cette expérience. Et cette expérience-là, elle se lie donc dans cette masse impressionnante de lettres, légations, lettres quand il avait une commission, on l'appelle commissarie, legazioni, quand il était légat, hein, qui représentait la République donc dans diverses relations diplomatiques. Et alors là, on va avoir bientôt une édition qui sera sans doute la plus ample collection de ces textes, qui ne sera pas complète parce que, pour des raisons évidentes, c'est-à-dire que son métier, c'était d'écrire des lettres. Donc quand il était à la chancellerie, quand il était à l'extérieur, il envoyait les comptes rendus, voilà ce que j'ai dit, voilà ce qu'on m'a répondu, etc. Quand il était à la chancellerie, il écrivait des lettres pour le capitaine, les capitaines qui étaient en train d'essayer de prendre Pise, pour les différents représentants de la République dans le Comtat de Florence, etc. Et là, il y a une masse qui est monstrueuse, quoi. Écrivait des dizaines de lettres par jour. Donc, si on vouloir publier tout, ça voudrait dire vouloir publier, en fait, pratiquement une partie. Tout le monde le souhaite, évidemment, de temps en temps. Ah, ça serait bien d'avoir tout, mais on n'aura jamais tout, quoi. Là, on va avoir 7 énormes volumes. Il y en a déjà 4 qui ont été publiés par donc un collègue de Lausanne, Jean-Jacques Marchand, qui coordonne cette nouvelle édition nationale des Legazioni Commissarie et Scritti di Governo, donc 7 volumes de ces lettres, plus un volume sur les lettres privées. Ouais. Et donc je crois qu'on peut dire, vraiment que, et ça on le reprendra plus précisément au moment où on commentera les textes du prince, hein, qu'on a là le laboratoire des textes majeurs, hein, et de la réflexion de Machiavel dans Le Prince, mais aussi dans les discours, mais aussi dans l'art de la guerre. Hein. Voilà. Alors, l'autre point important de ce moment-là, entre 1498 et 1512, l'autre point important, c'est l'expérience militaire de Machiavel. Hein. L'expérience de mise en place d'une forme d'armée, d'une petite armée florentine. Hein, là aussi, on y reviendra en étudiant les chapitres 12, 13 et 14 sur les armes, hein, du prince. Contrairement à une image assez largement répandue, qui était que c'est un pur théoricien, etc., c'est un praticien. Hein, et là aussi, donc, il fait au service de la République, à la demande du gonfalonier Piero Soderini, et sans doute on a de bonnes raisons de penser que c'est lui qui a convaincu Piero Soderini de l'importance de la mise en place de cette milizia florentine qu'on appelle l'ordinanza florentine. Qui sera mise en place par lui, hein, il va dans tout le comtat de Florence aider à lever des troupes, à trouver des capitaines, à faire l'exercice, à faire des revues, etc. Donc ordinance formée par les sujets donc de Florence, hein, c'est-à-dire une des questions importantes, c'est-à-dire lui, il avait sans doute en tête qu'à un moment donné, il faudrait passer d'une ordinance formée essentiellement des sujets, hein, donc des gens qui sont dans le contado, passer de ça à une forme d'organisation militaire qui comprenne les cittadini de Florence. Hein. Mais on n'est pas... Il n'est pas arrivé à ce point. En tout cas, on peut dire que cette petite armée florentine a joué un rôle important dans la guerre de Pise et a joué un rôle décisif dans la reprise de la ville de Pise en juin 1509. Hein. Mais cette réussite, cette victoire de l'Ordinanza Fiorentina à Pise a été en quelque sorte occultée par son échec face aux troupes espagnoles au moment justement de en 1512, hein, au moment du sac de Prato, puisque là les troupes florentines se sont débandées devant les soldats espagnols et ont laissé prendre Prato et mettre à sac Prato. Et c'est ça qui est resté un peu dans les esprits. Hein. Cet échec-là a occulté le rôle important joué par ces troupes dans la récupération de Pise en juin 1509. Alors, pendant cette période-là, en gros, ce qu'on a de lui, c'est donc cette masse de lettres publiques, un nombre relativement important de lettres privées, mais la plupart s'est perdu, précisément parce que c'était pas le descendant d'une grande famille, on avait l'habitude d'archiver systématiquement les lettres, etc. On a toutes les lettres de Guicciardini, par exemple, mais on a perdu une bonne partie des lettres privées de Machiavel. Hein. Quelques petits textes qui ressemblent plutôt à des moments où il fait le point. Hein. Il y en a sur la France, il y en a sur l'Allemagne, hein. Il y en a sur l'ordinanza, justement, sur l'ordinanza et sur la milizia florentine. Hein, mais aucun des grands textes n'est écrit pendant cette période-là. Le seul texte qu'il écrit et publie entre 1498 et 1512, c'est donc un poème historique, hein, Il Decennale Primo, écrit en 1504, et qui relate précisément, là, on est en plein dans notre hypothèse de... du bouleversement par les guerres en Italie, ce Decennale Primo, hein, relate l'histoire de l'Italie depuis l'arrivée en 1494 des troupes de Charles VIII, et le texte est publié, là, c'est le seul texte publié de son vivant avec l'art de la guerre, mais qui est plus tardif. Hein. Tous les autres textes sont posthumes. Les grands textes politiques et historiographiques sont posthumes. Alors, donc cette période là des 15 années à Studio all'Arte dello Stato, ensuite avec le retour des Médicis à Florence, il est mis à l'écart, il perd sa fonction de secrétaire, hein. Vous savez que on l'appelle le secrétaire florentin par antonomase, hein. Le secrétaire florentin, parce que c'est cette période-là qui lui donne son expérience politique. Il est condamné dans un premier temps à une année, en gros, de bannissement, de résidence surveillée, on dirait, hein, hors de Florence, dans une propriété qu'il a dans le Contado. Il y a un rebondissement en février 1513, puisqu'il y a la découverte d'une conjuration de républicains, hein, menée par Agostino Capponi et Pier Paolo Boscoli. Et ces conjurés avaient prévu de tuer Giuliano de' Medici. À ce moment-là, Machiavel, dont on se demande s'il ne fait pas partie, de cette conjuration est arrêté. Hein, il n'en fait pas partie. Et vous savez sans doute qu'il va écrire un chapitre énorme, hein, le chapitre 6 du livre 3 des discours, pour expliquer qu'il vraiment faut pas faire de conjuration. Parce qu'il a cette expérience-là et une autre expérience en 1522. Il sait que les conjurations, ça marche pas, quoi. Hein, ça marche pas. Donc il est arrêté, il est torturé pour lui faire avouer qu'il fait partie de la conjuration. Bon, il avoue pas parce qu'il n'en fait pas partie. Il est condamné à la prison à vie, mais heureusement pour lui, très peu de temps après, le 11 mars 1513, Giovanni de' Medici est élu pape, hein, pour le nom de Léon X, et donc il y a une espèce d'amnistie, enfin, hein, qui va avec la liège générale de la cité florentine, qui a un pape florentin, etc. Et il est de nouveau, il est donc libéré de sa prison, mais de nouveau assigné à résidence, donc à l'Albergaccio, près de San Casciano, dans le Val di Pesa. Ouais. Alors, c'est là, à ce moment-là, et dans cet endroit-là, qu'il écrit, hein, sans doute dans la seconde moitié de l'année 1513, il commence à rédiger Le Prince, hein, et donc il l'a fini, ou en tout cas il en a fini une rédaction, le 10 décembre 1513, puisqu'il l'annonce à Francesco Vettore dans la lettre que je viens de vous lire. Il pourra rentrer à Florence en au début de l'année 1514, en février 1514. Ouais. Donc, premier grand texte, hein, Le Prince, sur lequel, il y a des séries d'hypothèses, d'écritures, etc., très diverses, hein, sur lesquelles on ne peut pas avoir de certitude, parce qu'on n'a pas, les manuscrits autographes. Ce qui est certain, c'est que en décembre 1513, quelque chose qui ressemblait au prince que nous lisons maintenant est écrit. Le débat sur est-ce que ça a été écrit en plusieurs temps, est-ce que là il y avait qu'une partie du texte et le reste a été écrit plus tard, etc., est un débat purement abstrait, faute d'éléments matériels et textuels permettant d'avoir une certitude absolue. Donc, hein, on s'en tient aux éléments factuels qu'on connaît. Il annonce à Francesco Vettore en décembre que le texte est rédigé. Alors, vous avez sans doute en tête un autre passage de cette lettre à Francesco Vettore, où il explique qu'il espère bien, à l'aide de ce texte, hein, et c'est donc un des points qu'il faut avoir en tête quand on lit le texte, c'est que d'une certaine façon, ce texte, c'est une espèce de CV amélioré, quoi. Hein, il dit très clairement dans la lettre à Francesco Vettore que il espère bien, hein, que les Médicis vont commencer à se servir de lui. Hein. Donc, il réfléchit sur la nécessité dans laquelle il est, la necessità che mi caccia, donc la pauvreté, il est donc en espèce d'exil, hein, dans une petite propriété de campagne, hein, e lungo tempo non posso star così che io non diventi per povertà contendendo, hein, méprisable. Tellement, tellement pauvre qu'il en devienne méprisable. Hein. Et il exprime son désir, il desiderio a rei, hein, che questi signori medici mi cominciassino ad operare, se dovessino cominciare a farmi voltolare un sasso. Perché se poi io non me li guadagnassi, io mi dorrei di me. Ce qu'il espère, c'est qu'on va lui redonner l'occasion de montrer, de faire la preuve de ce qu'il a acquis par cette expérience. Voilà. Alors, il se trouve que, précisément, questi signori medici ne veulent pas adopérarlo, hein, ne veulent pas se servir de Médicis. Ils continuent à se méfier de celui qui a été un des principaux conseillers, hein, de Piero Soderini. Et donc, quand un des Médicis, Giuliano, qui connaît Machiavel, ou qui a des amis, dont Francesco Vettore, et on dit que ça vaudrait la peine de le prendre à son service comme secrétaire, etc. Quand en janvier 1515, Giuliano de' Medici est sur le point de prendre Machiavel à son service, il reçoit une lettre, hein, d'un autre membre de la famille, le cardinal Giulio, hein, celui qui deviendra après le second pape Médicis, Clément VII. Hein, Giulio de' Medici invite Giuliano a non si impacciare di Niccolò. Alors, donc cette méfiance des Médicis va durer plusieurs années, et pendant ce temps-là, Machiavel fréquente donc gli Orti Orticellari, dont on a déjà parlé dans un des cours antérieurs. Hein, il fréquente gli Orti, donc de la maison Orticellari, hein, et ça va être à des gens qui sont parmi les fréquentateurs de ces Orti Orticellari, que vont être dédiés les principaux textes qu'il écrit à ce moment-là, donc les discours sur la première décade de Tite-Live, hein, l'art de la guerre, voilà, tout ça va être dédié à des gens qui assistent aux discussions des Orti Orticellari. Donc, il semble qu'à partir de 1516, ils lisent justement avec ses assistants là, dans les Orti Orticellari une partie de ses discours sopra la prima decade di Tito Livio. C'est dans les Orti Orticellari qu'il va rencontrer Fabrizio Colonna, condottiere, qui va être son porte-parole dans le texte de l'Arte della Guerra, hein, puisqu'en 1516, Fabrizio Colonna passe à Florence, qu'il va aux Orti Orticellari, et que ces discussions sont le point de départ, hein, sont le point de départ du texte qu'il écrit à partir de 1519, dell'Arte della Guerra, hein, et qui est le seul texte publié de son vivant, hein, à Florence, chez les éditeurs florentins Giunta. Hein, le texte est publié en août 1521. Voilà. Donc, cette période-là, 1516-1521, donc une période consacré à l'écriture, il est un peu aidé, y compris financièrement, par les gens qui se réunissent dans gli Orti Orticellari, et en particulier visiblement par Cosimo, qu'on appelle Cosimino, parce que il a le même nom que son père. Donc le petit Côme Rucellai, auquel il fait un portrait de lui. Il est mort très jeune, Cosimino Rucellai. Et tout le début du premier livre, il y a deux très belles pages d'amitié, à la mémoire de Cosimino Rucellai dans l'Arte della Guerra. Et puis il est dédicataire des textes, des discorsi sopra la prima deca et de l'Arte della Guerra, sont des gens de ce milieu-là, ce milieu. C'est un milieu républicain, il y a une partie de ceux auxquels il dédicace les discours seront parmi les conjurés républicains de 1522. Alors, une espèce de rapprochement avec les Médicis à partir de 1520. Il n'aura jamais de grandes fonctions avec les Médicis, mais enfin, d'une part, il y a un texte qu'on aura l'occasion de commenter, qui est écrit à la Dom, petit texte, sur la réforme de Florence, auquel il a donné le titre latin de Discursus Florentinarum Rerum, discours sur les choses de Florence, qui est écrit à la demande des Médicis, à la demande du cardinal Giulio de' Medici, au moment où, après la mort du jeune Laurent de Médicis, duc d'Urbain, en 1519, les Médicis se demandent quelle est la meilleure solution. Est-ce qu'ils doivent continuer avec le système médicien qui a fonctionné jusqu'à ce moment-là? Est-ce qu'ils doivent choisir définitivement le principat? Est-ce qu'ils doivent remettre en forme une partie des institutions républicaines florentines? Et Machiavel est un de ceux auxquels on demande un avis. Et il écrit ce bref texte dont on aura l'occasion de reparler. Ensuite, on lui donne une mission assez étonnante. En 1521, il est chargé d'aller au congrès des franciscains, des frères mineurs, pour choisir un prédicateur. Voilà. Et alors, c'est pas une grande mission, mais il y a de cette mission naît un lien très important avec Francesco Guicciardini, qui à ce moment-là était gouverneur de Modène. Alors, il y a tout premier échange de lettres entre les deux, et à ce moment-là, il y en aura jusqu'à la mort de Machiavel, jusqu'en 1527. Et là, il y a une lettre du 18 mai 1521 de Francesco Guicciardini a Niccolò Machiavelli, al magnifico messer Niccolò Machiavelli nunzio fiorentino in Carpi. Machiavello carissimo, écrit donc Francesco Guicciardini, quando io leggo i vostri titoli di oratore di Repubblica e di Frati e considero con quanti re, duchi e principi voi avete altre volte negoziato, mi ricordo di Lisandro, a chi dopo tante vittorie e trofei fu dato la cura di distribuire la carne a quelli medesimi soldati a chi sì gloriosamente aveva comandato edico, vedi che mutati solum e visi degli uomini e i colori estrinseci, le cose medesime tutte ritornano. Ne vediamo accidente alcuno che a altri tempi non sia stato veduto. Ma il mutare nomi e figura le cose fa che soli e prudenti le riconoscono, e però è buona e utile la storia, perché ti mette innanzi e ti fa riconoscere e rivedere quello che mai non avevi conosciuto né veduto. Di che seguita un sillogismo fratesco, che molto è da commendare chi vi ha dato la cura di scrivere annali e da esortare voi che con diligenza eseguiate l'ufficio commesso. A che crede non vi sarà al tutto inutile questa legazione, perché in cotesto occio di 3D arete succiata tutta la Repubblica dei Zoccoli, e da qualche proposito vi varrete di quel modello, comparandolo o ragguagliandolo a qualcuna delle vostre forme. Allora, voyez le ton évidemment humoristique, hein, ce qui est assez rare chez Guicciardini, dont on peut pas dire que ça soit un bout en train, hein, pas franchement un rigolo, quoi. Mais avec Machiavel, il se laisse aller assez souvent. Là, c'est un des cas. Mais derrière le ton humoristique, derrière les blagues, hein, derrière le « quand je me souviens du nombre de rois, de ducs et de princes avec lesquels vous avez parlé, maintenant vous êtes avec ses frères, hein, avec les frères franciscains, je me souviens de Lysandre, donc Plutarque, les vies parallèles, hein, qui est un des grands textes de référence de Machiavel. Bon. Les cose medesime tutte ritornano. Évidemment, toute une série d'éléments très semblables dans les ricordi de Guicciardini et dans le dialogue del Reggimento di Firenze, mais aussi dans le début des discours. Donc, est-ce qu'il a déjà eu des discours à ce moment-là? C'est pas complètement sûr. En tout cas, qu'il en ait parlé avec Machiavel, ça paraît probable. En tout cas, quand il écrit, là, ça n'a pas dû vous échapper, quand il écrit le dialogue del Reggimento di Firenze, il connaît très bien les analyses de Machiavel, des discours sur Rome, le rôle de l'armée à Rome, etc., les ordres, le rapport entre buoni ordini et buone armi, hein, même s'il n'est pas d'accord, mais il le connaît à tel point que c'est son père, dans le dialogue, Piero Guicciardini, qui se fait en quelque sorte le porte-parole des thèses de Machiavel. Il sait également que Machiavel est en train d'écrire la Historia Fiorentina et que c'est une chose très importante d'avoir en tête la lezione delle cose antiche. Et donc vous voyez que derrière le ton badin et humoristique, hein, il y a toute une série d'éléments qui sont des éléments de fond d'analyse théorique qui sont amené là, hein, le dernier dans le passage étant, hein, cette allusion à maintenant que vous avez vu cette assemblée des frères franciscains, vous allez succiare, hein, avaler, sucer la Repubblica degli Zoccoli, parce qu'évidemment il marche avec des sabots, hein, Repubblica degli Zoccoli, et vous allez l'ajouter à une de vos autres formes. Donc il est, vous voyez que là il y a, hein, on est dans un dialogue entre à mot couvert sur les analyses théoriques, hein, qui sont derrière, qui sont dans le substrat de cette lettre entre Machiavel, que Guicciardini adresse à Machiavel. Alors, J'en profite donc pour dire qu'en effet, depuis un an, il a été chargé d'écrire effectivement l'Yannali, hein, et le terme employé par Guichardin est le terme même qui est employé par les provveditori allo studio quand ils donnent dans leur espèce, c'est un espèce de contrat quoi, qu'ils envoient à Machiavel, hein, ils lui donnent comme mission rémunérée d'écrire, et là je cite la lettre des provveditori allo studio, d'écrire gli annali, ovvero le storie delle cose fatte dallo Stato e città di Firenze. Hein? Et ça, ce texte-là sera présenté, mes manuscrits, au pape Clément VII, puisque donc l'ancien cardinal Giulio, hein, devenu pape sous le nom de Clément VII, et les Historie Fiorentine lui seront présentées en mai 1525. Hein? Donc là, on peut dire que là, l'ensemble des textes importants donc, ont donc été écrits, hein, entre 1513, Le Prince, et après entre 1515 et 1520, Discours et Art de la Guerre, 1520-1525, Historia Fiorentina. Et là, on a à peu près l'ensemble des textes auxquels il faut ajouter, hein, les deux comédies, la Mandragola et la Clitia, hein, écrites aussi pendant cette période, la Mandragola probablement en 1518. Voilà. Alors, les deux dernières années de Machiavel, il obtient une vraie commission politico-militaire en février 1526. Hein, il est nommé chancelier des procuratori delle mura. Hein, en février 1526, hein, c'est le début de la période qui suit donc la défaite française à Pavie, les hypothèses de guerre pour empêcher Charles Quint de farsi signore d'Italia, hein, et donc un des points qui est pris en charge, c'est la fortification de Florence, fortification qui servira en fait aux républicains florentins, hein, au moment du siège, hein, de 1530. Au moment donc de la guerre qui aboutira au sac de Rome en mai 1527, hein, il est envoyé à plusieurs reprises par les Florentins auprès de Francesco Guicciardini, lieutenant du pape dans l'armée de la Sainte Ligue. Hein, il y est envoyé en septembre 1526. Il y est envoyé une nouvelle fois en novembre 1526 et une dernière fois en février 1527. Hein. Là, on a une série de lettres entre les deux hommes quand ils sont pas ensemble. Il y en a une dont je vais vous lire un extrait parce que elle montre bien la certitude que les deux hommes ont de la guerre proche. Hein. Elle est un tout petit peu au début du processus. Hein. C'est en mai 1526. Le 17 mai 1526, Niccolò Machiavelli écrit à Francesco Guicciardini. Alors ça commence justement par une allusion à sa fonction de chancelier des procuratori delle mura. Hein. Il vient d'écrire une relation sur les fortifications de Florence. Et donc, il s'adresse à Francesco Guicciardini en l'appelant Magnifique signor presidente, parce que Guicciardini est à ce moment-là presidente de la Romagne, hein, qui est donc une terre pontificale. Magnifico signor presidente, io non vi ho scritto poiché partii di costì perché ho il capo sì pieno di baluardi che non vi è potuto entrare altra cosa. Hein? J'ai la tête tellement pleine de remparts que je pouvais plus rien mettre d'autre. Et alors, dans ce texte, dans cette lettre, il parle des probablement de la guerre proche, hein. Io ho inteso i rumori di Lombardia e conoscersi da ogni parte la facilità che sarebbe trarre quelli ribaldi, hein, les espagnols, da quel paese. Questa occasione, per l'amor di Dio, non si perda. E ricordati che la fortuna e i cattivi nostri consigli e peggior ministri arriano condotto non il re, ma il papa in prigione. Provvedete per l'amor di Dio. No? Je passe une partie de la lettre qui est sur cette même tonalité. Ora, il Dio ha ricondotto le cose in termine che il Papa è a tempo a tenerlo quando questo tempo non si lasci perdere. Voi sapete quante occasioni si sono perdute. Non perdete questa, ne confidate più nello starvi, rimettendovi alla fortuna e al tempo, perché col tempo non vengono sempre quelle medesime cose, nella fortuna è sempre quella medesima. Io direi più oltre se io parlassi con uomo che non intendesse i segreti o non conoscesse il mondo. Liberate diuturna cura Italiam, extirpates as immanes belluas quae hominis preter facem et vocem nil habent. Hein? Et donc là, vous voyez l'espèce de montée qui se termine dans une espèce de... C'est assez rare comme ça de trouver sous la plume de Machiavel, à un moment donné, il se met à penser au latin. Hein, il se met au passé au latin, et qu'est-ce qu'il dit? Liberate diuturna cura Italiam. Hein, libérez l'Italie des soucis, hein, dans lesquels elle est jour après jour. Hein. Extirpesant, extirpates as immanes belluas. Hein, extirpesant ces bêtes immondes qui n'ont à part le visage et la voix, rien d'humain. Hein? Quae hominis nil habent, qui n'ont rien d'homme, si ce n'est le visage et la voix. Hein? Donc là, vous voyez en même temps donc, cette espèce de... Hein, la récurrence de per l'amor di Dio, per l'amor di Dio. Dio a ricondotto le cose, hein, espèce de montée dans une langue hein, qui s'appuie sur une sorte de comme ça, sacralité, enfin, hein, qui fait penser au seul passage du prince qui soit un peu dans cette tonalité, qui est le dernier chapitre, qui est précisément le chapitre de libérer appel à la liberté de l'Italie. Hein. Et vous voyez, donc là, on est 13 ans après. On est 13 ans après et les mêmes motivations. Sapete quante occasioni si sono perdute. Hein. Les motivations qui étaient sans aucun doute à l'origine de l'écriture du prince et en particulier de l'exhortatio finale du chapitre 26, hein, on les retrouve là. Vous savez combien d'occasions nous avons perdues. Ne perdez pas celle-ci. Hein. Cette occasion-là sera perdue également, puisque cette guerre pour précisément extirper ces bêtes ces bêtes féroces des Espagnols va aboutir non pas à leur extirpation, mais à leur victoire définitive avec le sac de Rome et les suites du sac de Rome. Hein. En même temps, cette confiance qu'il a dans Guicciardini, hein, qu'il a dans Guicciardini, io direi più oltre se io parlassi con uomo che non intendesse i segreti o non conoscesse il mondo. Hein. Il s'adresse à lui parce que précisément, il pense que c'est une de ces personnes qui connaît, hein, connaît les secrets et comment va le monde. Et il pense qu'il peut lui faire confiance pour cette tâche de liberare l'Italien. Hein. Juste une autre citation d'une lettre un peu plus tardive, pratiquement un an plus tard, le 16 avril 1527. Dans une lettre, non pas à Guicciardini, mais à Francesco Vettori, au moment où la guerre a commencé, où, ouais, il explique que là, il faudrait se décider définitivement à faire la guerre alla impazzata, hein. E spesso la disperazione trova dei rimedi che la elezione non ha saputi trovare. Costoro vengono costa senza artiglierie. On est même pas un mois avant la prise de Rome, hein. Senza artiglierie, in un paese difficile, in modo che se noi, quella poca vita che ci resta, raccozziamo con le forze della Lega che sono in punto, o egli si partiranno di cotesta provincia con vergogna o essi ridurranno a termini ragionevoli. Hein. Il commente l'avancée des troupes de Bourbon vers Florence, enfin vers le sud, hein, vers Florence et après vers Rome. Et il y a ce très beau commentaire, hein, très belle déclaration d'amitié envers Francesco Guicciardini. Il écrit à Francesco Vettori, hein. Io amo Messer Francesco Guicciardini. Amo la patria mia più dell'animo. E vi dico questo per quella esperienza che mi hanno data 60 anni, che io non credo che mai si travagliassino i più difficili articoli che questi, dove la pace è necessaria e la guerra non si può abbandonare, e avere alle mani un principe, il parle du pape Clément VII, che con fatica può supplire o alla pace sola o alla guerra sola. Raccomandomi a voi, a di 16 d'aprile 1527, Niccolò Machiavelli in Furlì. Ah, vous voyez, donc là, au moment décisif où tout le monde sent que quelque chose de décisif va arriver, hein. Cette espèce d'invocation à quand même tenter quelque chose, hein, à tenter quelque chose. Farla alla impazzata, hein. Raccozzare quella poca vita che ci resta. Et une nouvelle fois, au nom de quoi est-ce qu'il dit ça, hein, vous avez entendu le terme. Vi dico questo per quella esperienza che mi hanno dato 60 anni. Il y a la certitude que savoir les choses depuis des années, hein, a pas empêché que personne n'entende, hein, cette espèce d'invocation. Et c'est quand même. Et vous voyez que dans cette invocation, il y inscrit sa patrie, Florence. Hein, et là, il ne faudrait pas faire de contresens de penser que quand il dit la patria mia, il penserait à l'Italie, il pense à Florence. Et de la même façon, là aussi, l'écho est indubitable avec le chapitre 26 du Prince, où il y a l'expression « E questa patria ne sia nobilitata ». Et Questa patria ne sia nobilitate, dans le chapitre 26 du Prince, là aussi, c'est Florence. Amo la patria mia più dell'anima. Et là, sans aucun doute, vous avez en tête un passage du dialogue del Reggimento di Firenze où Guicciardini cite un vieux texte de la tradition républicaine florentine, qui est le texte de l'arrière-grand-père du Capponi qui discute avec Bernardo del Nero, et là, l'avolo tuo scrisse negli suoi ricordi che bisognava fare dei dieci della guerra gente che amava la patria più dell'anima. Vous voyez que là, il y a vraiment des liens dans les principes, dans les fondements éthiques qui lient ces gens à leur tradition. Et alors, au-delà de cet amour avec la patrie, il y a cette Io amo Messer Guicciardini qui est là, voilà, parce que un des derniers Florentins dans lequel il peut penser qu'il aura le courage jusqu'au bout d'essayer de mener cette guerre indispensable et de farla alla impazzata et de raccorre la poca vita che ci resta pour faire front. Voilà. Alors, la décision éthique, la mobilisation éthique et morale ne suffit pas toujours, comme on peut s'en rendre compte tous les jours, à changer l'histoire et à changer les rapports de force. Le sac de Rome a lieu, et alors là, il se passe donc à Florence. Que les Médicis la quittent à nouveau et que la République y est proclamée. Machiavel pense que on va peut-être le renommer secrétaire de la chancellerie, mais c'est pas lui qui est décidé. On lui préfère un autre candidat. Et donc le 10 juin, c'est Francesco Taruggi qui est élu secrétaire de la chancellerie. Ça lui brise le cœur et il meurt le 21 juin 1527. Ouais. Bon, ça lui brise pas le cœur. Apparemment, il a un problème intestinal grave, peut-être une tumeur à l'intestin, une perforation de l'intestin en tout cas. Il meurt le 21 juin 1527, mais évidemment, idéalement. Cette mort quelques semaines après le sac de Rome et le rétablissement de la République à Florence apparaît comme emblématique au moment où, puisque c'est la mort qui transforme le hasard des vies humaines en destin. Enfin, ouais, donc là, alors les textes du prince et des discours sont publiés posthumes, ils circulent de façon manuscrite depuis le début, on a les circulations du prince dès les années 14-15, enfin. Mais ils sont publiés, donc... Les deux, à chaque fois, pratiquement au même moment, à Rome et à Florence. Donc les discours en 31, octobre 31 à Rome, éditeur Bladan, novembre 31 Florence, éditeur Giunta, et le prince en janvier 1532. Là aussi, l'éditeur Blad de Rome publie quelques mois avant l'éditeur florentin Giunta, puisque le prince est publié le 4 janvier et, à Rome et en mai, le 8 mai 1532 à Florence. Et voilà donc les éléments indispensables à connaître sur, en gros, les éléments de biographie machiavélienne. Hein. Donc, la prochaine fois, donc, on rentrera dans le vif du sujet en commençant à travailler sur les enjeux de l'écriture du prince. Pour aujourd'hui, on s'arrête là.